Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Batteur sans limite. Aujourd'hui, je suis accompagné de Gabriel Delmas. Salut Gabriel.
Salut.
Vous avez certainement vu une de ses vidéos sur YouTube ou sa performance à la Bag Show 2017. Moi, j'y étais pas, mais tu m'as envoyé pas mal de vidéos. Ça,
ouais.
Tu m'as bien vendu la chose. Et bien avant ça, déjà, je t'avais repéré sur YouTube. J'ai vraiment kiffé ton jeu, tout en finesse et avec bien propre, pas trop de notes, bien propre. Et mais costaud quand il faut, quoi. Tu frappes bien quand il faut. Hein. À la Benny Grève, on en parlera tout à l'heure. C'est un point que j'ai vraiment envie de traiter.
Ouais.
Donc aujourd'hui, on va parler de groove, de tempo, du rôle de tes influences, notamment Benny Grève,
ouais.
Et de la construction de ta carrière. J'entends beaucoup de parler de toi en ce moment. On te voit un petit peu à droite, à gauche et tout ça. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc j'aimerais voir comment est-ce que toi, tu le vois. De
D'accord.
l'inside, voilà
D'accord.
comment est-ce que toi tu vois ça. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire à quel âge est-ce que tu as commencé à faire de la batterie et quelle a été ta formation?
Alors moi j'ai commencé à taper sur la batterie en fait dès l'âge de 2 ans, 2 ans et demi sur les casseroles de ma grand-mère. C'est souvent l'histoire que
Ah ouais,
beaucoup de
d'accord.
gens racontent, mais et c'est ça en fait, les casseroles de ma grand-mère avec des cuillères en bois. Très tôt en fait, c'était le rythme quoi, c'était taper. Véritablement tapé quoi. Donc ensuite, mes parents m'ont offert des batteries à jouer à chaque Noël.
J'étais là,
juste
donc des toutes
deux,
petites.
4 ans, ouais, c'est ça. En général, le soir de Noël, elles étaient cassées déjà.
Ok, très bien.
Elles étaient cassées en général. Et à 4-5 ans, on m'a offert une batterie, une première batterie. Et là, j'ai commencé à prendre des cours dans une école de musique dans le Tarn-et-Garonne, c'est le sud de la France. À Beaumont-de-Lomagne, exactement. C'est une école de musique, en fait, une école classique qu'il y a dans une ville de 5 000 habitants, entre 5 000 et 10 000 habitants.
Petite école de village, quoi.
Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas un village, c'est un petit peu plus
Ouais.
qu'un village, mais voilà.
Ouais.
Ensuite, donc là, j'ai commencé mes premiers groupes d'hard rock, de rock, j'ai commencé par ça. Bon. Et après, mon cursus, donc là, puisqu'on parle de mon cursus, après mon cursus, je suis parti à l'âge de 17 ans à l'école Agostini à Toulouse.
Ok.
Et j'ai fait, je suis resté pas mal de temps là-bas, je suis resté 8 ans, je crois, à peu près. Ensuite, j'ai arrêté parce que j'avais fait le tour et depuis, je travaille en autodidacte avec plusieurs méthodes et avec Franck Agulon, qui est un batteur que j'aime beaucoup, qui me suit en fait régulièrement, avec qui on fait des stages, des mises au point tous les deux, quoi. Voilà.
D'accord. Et du coup, alors juste pour revenir un petit peu en arrière, à 17 ans, j'imagine que tu as passé le bac, tu as commencé un peu comme tout le monde, et après tu as fait Agostini?
Ouais, après l'école Agostini, en soi, c'est juste un ou deux cours par semaine, hein, donc c'est
Ouais.
pas un conservatoire, c'est pas, je veux dire, à côté, j'avais ma vie, effectivement, j'ai fait des études, moi, d'informatique, qui n'ont aucun rapport avec la musique, pour essayer d'avoir un diplôme, au cas où la musique ne fonctionne pas, en fait, tout simplement.
Ouais.
Et tous les samedis matin, j'allais à l'école Agostini, ensuite c'est parti le mardi soir, voilà, je faisais mon truc, quoi, je faisais mes cours. À l'école à
D'accord.
Toulouse.
Ouais, et avec à côté le backup, la sécurité informatique, quoi, au cas où,
Ouais,
si c'était
je continuais
nécessaire.
mes études tranquillement, mais avec toujours cette volonté de faire la musique. De toute façon,
Ouais.
ça a toujours été ça.
D'accord. Et donc, maintenant, tu as dit que tu voyais beaucoup Franck Agulon, apparemment. Tu vas aussi tu vas au Drumming Lab, ou c'est autour de Toulouse que tu le vois?
En fait, dans les événements, les démos que j'ai participé, il était souvent là, en fait.
Ouais.
L'une des premières démos que j'ai faites à Paris, c'était Wicked Drummer en 2015. Il était là et je suis allé le voir, en étant tout intimidé, en disant que j'adore ce qu'il fait et tout. Et là, on a commencé à sympathiser. Et de là, ensuite, il est venu à Toulouse, à une école là-bas, une petite école de batterie. Et il a fait des stages, il a animé des stages. Donc, moi, du coup, j'étais là. Pour prendre des cours avec lui, quoi. C'était vraiment cool, quoi. C'était vraiment
Oui,
cool.
je sais plus d'où il vient. Je me rappelle plus où il a grandi, Franck, mais
À
je
Marseille.
crois voilà, il est aussi du sud, ouais, pas très loin, quoi, de Toulouse.
Ouais.
Ouais.
Donc
Ok.
voilà, c'est un gars, j'adore ce type, moi. J'adore ce type, il m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien dans sa méthode. C'est quelque chose de totalement différent. Par rapport à mon autre cursus, quoi. Si je l'avais eu beaucoup plus jeune, certainement je serais meilleur, je pense.
C'est vrai? Il y a quoi que t'as... Tu veux dire qu'il y a des choses qui t'a apporté que tu retrouvais pas dans les méthodes d'apprentissage Agostini, c'est ça?
L'école Agostini et même l'école que j'avais avant, ça m'a beaucoup aidé pour le solfège, pour la technique.
Ouais.
Le seul truc que j'ai un petit peu souffert, moi, à un moment donné, c'est de pas avoir un professeur en face de toi qui envoie du lourd, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qui savent jouer, quoi. Vraiment super bien, quoi. Qui puissent te montrer les exercices de manière, de belle manière, en fait.
D'accord, il manquait le mentor, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et de savoir que Franck, qui est un batteur actuel, qui est vachement respecté et tout, et qui peut, il parle de quelque chose, il peut te le montrer en fait. Il te le montre et c'est juste super beau, quoi. Et moi,
Ouais.
j'ai eu beaucoup de profs qui parlaient de manière orale en fait. Le cours était oral. Il y avait quasiment que moi qui jouais. J'ai eu beaucoup de
What?
ça.
Et OK. Ouais,
Et ça m'a aidé. Des fois, ça m'a aidé. Hein. Il y a un
bah.
professeur à l'école Agostini qui s'appelle Jean-Patrick Louvet. J'ai beaucoup aimé, c'est un gars, il se concentrait sur moi et tout, j'ai beaucoup aimé. Mais que ce soit lui ou le directeur, je ne les ai jamais joué de la batterie, jamais. Parce que ce sont des gens qui sont véritablement pédagogues, en fait. Ce qui peut être, à mon avis, un petit peu gênant, hein, passer un certain niveau tu n'as pas quelqu'un en face de toi qui peut réellement te mettre la misère, quoi, la batterie. Ça fait du bien, des fois, de
Ouais,
prendre une claque,
ouais.
quoi.
Oui, complètement. Et moi, je me rappelle toujours, il y a la première chose qui me vient à l'esprit quand tu dis ça, c'est quand j'ai découvert les FLA. Quand j'ai vu mon prof faire un FLA pour la première fois, et que pour moi, un FLA, c'était bah, jouer du rock, donc je connaissais quoi.
Ouais.
C'est tu frappes fort avec les deux mains et ça
C'est
fait.
ça,
Et là, quand j'ai vu mon prof qui en fait avait une baguette qui était très proche de la peau et l'autre plus haut, et que c'était pas un gros PRA, mais que c'était vraiment un petit frac.
ouais.
Ça a tout changé,
C'est ça.
c'était une grosse inspiration quoi.
Ah, c'est
Et
ça.
ça peut vraiment motiver. Après ça, j'ai bossé mes flas et je me suis dit, wow, moi aussi j'ai envie de faire des flas comme
Bah ouais,
ça.
c'est exactement ça. C'est exactement ça.
Ouais. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a... Quand tu penses à Franck, tu penses à quoi particulièrement? C'est quoi la leçon qu'il t'a donnée?
Alors moi déjà, Franck, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'âge de 15-16 ans, je regardais les DVD qu'il y avait dans Battery Magazine et il intervenait souvent avec des vidéos du MI et tout. Donc je connaissais très bien, on va dire, sa patte et tout, de manière extrêmement nuancée, très musicale en fait. Moi j'aime bien les batteurs qui sont un peu des peintres en fait quand ils jouent. C'est très une petite touche par-ci, une petite touche par-là. C'est vachement beau en fait, c'est très coloré. Donc je connaissais très bien avant de le connaître personnellement maintenant. Et donc du coup, il m'a fait du bien sur la précision, en fait, sur les détails. Il y a une vidéo, en fait, qui a bien marché pour moi. C'était la vidéo du concours Zijan que j'avais fait. J'avais faite, pardon, il y a un an et demi de ça. Je crois que tu l'avais vu d'ailleurs. Une vidéo qui avait
C'était pour la
vachement...
série S, non?
Ouais, c'est ça.
Pour la sortie de la série S, ouais.
Elle avait super bien fonctionné, hein, plus de 40 000 vues, beaucoup, beaucoup de retours. Mais en fait, Franck, il me dit, mais je comprends pas, en fait, tes breaks, ils retombent pas sur le premier temps. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu fais des mesures impaires? Est-ce que c'est normal? Il me dit, j'ai pas compris, quoi. Il me dit, c'est super, mais j'ai pas compris. Et en fait, moi, j'étais dans l'ignorance, en fait. Je ne savais pas que mes breaks ne retombaient pas sur le 1, tout simplement, ce qui est super important. Donc, cette démo-là, ok, elle est cool, mais si tu mets un clic derrière ou si tu comptes juste avec tes doigts jusqu'à 4, te rends compte qu'à la fin t'es plus du tout en 4 temps alors que moi je voulais être en 4 temps hein. C'est
Ouais.
vraiment une très grosse erreur hein. Fait une erreur quelque chose qui est pas normal quand même. Et
Ouais,
donc
qui n'était pas voulu, quoi.
on a vraiment bossé sur ça, sur les cycles, sur le premier temps, se dire non, le premier temps il est là, c'est pas négociable, il est pas ailleurs quoi hein, si tu
on négocie pas avec la musique, ouais.
voilà, il m'a fait prendre conscience des choses. Mais bon, si t'as un gars en face de toi qui joue 40 fois mieux, ce qui est le cas avec Franck, ben lui, il est en capacité de dire, ouais, mais là, il y a un problème, là, t'es plus ce premier temps, est-ce que c'est normal? Je n'ai pas compris ce que tu as fait, quoi.
D'accord, ouais.
Et moi, je suis vachement ouvert, en fait, à la critique, parce que j'ai vraiment envie d'avancer, quoi, d'être meilleur, tu vois, de progresser. Donc, s'il me dit ça, j'en prends pleinement conscience, tu
Bah ouais, bah oui, clairement. Et du coup, t'as adapté ton jeu, t'as
vois. Ouais,
travaillé avec lui en fonction de ça, quoi,
c'est
hein.
ça. J'ai beaucoup,
D'accord.
beaucoup
Et
de... Ouais. Pardon.
Alors, je mettrai cette vidéo du coup dans les références hein,
Ouais.
sur le site avec le podcast. Donc, c'est la vidéo de, je me le marque, la vidéo avec la série
Voilà,
S
c'est
qu'on
ça.
puisse voir de quoi il s'agit. Hein. Et comment tu l'avais appelée cette vidéo?
Gabriel Delmas, concours Zijan, si tu tapes ça, tu le
D'accord, ouais.
trouveras sur YouTube, forcément.
Concours Zijian. Ok, parfait. Je mettrai ça, c'est vrai, ce sera intéressant de voir ça et de voir ce que tu as
Et
fait
cette
après,
vidéo avait
justement.
super bien marché sur Facebook, en fait.
Ouais.
Pas sur ma chaîne YouTube. Après, elle a été téléchargée sur ma chaîne YouTube. Mais c'est sur Facebook que j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours
Ouais.
à ce moment-là, quoi. Ouais,
D'accord. Ok. Et toi, aujourd'hui, tu donnes aussi des cours?
bien sûr, hein. Je donne des cours. J'adore ça, en fait, donner des cours, expliquer les choses et tout. J'en donne pas de manière extrêmement intensive, comme peuvent en faire certains. Mais j'en donne ouais, à des enfants, à des adultes, à des gens qui arrivent, qui ont une demande très très précise, très particulière. Je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça cool.
Ouais, donc c'est pas du tout ce que tu fais à temps plein, mais t'en donnes toutes les semaines quand même.
Ben, moi, je donne. Après, il y a le côté économique aussi. Hein. Il y a
Ouais.
beaucoup de musiciens qui ont besoin aussi de donner des cours pour avoir de l'argent. À côté, je
Ouais.
suis musicien, j'essaie de jouer dans les groupes, dans les jams, d'organiser des jams, d'organiser des soirées. J'ai mon propre groupe, j'ai un autre projet, enfin, bref, j'essaie d'être actif, mais à côté j'ai les cours parce que économiquement c'est important et
Ouais.
moi ça me plaît vraiment
Oui,
quoi.
oui. Quand les deux se rejoignent,
C'est
c'est
ça.
beau. Et du coup, tu es intermittent du spectacle ou tu as un statut d'auto-entrepreneur?
Moi j'ai un statut d'auto-entrepreneur. Pour l'instant je sais pas, statut d'intermittent du spectacle. J'aurais pu à plusieurs reprises, mais malheureusement pour l'instant j'essaie de faire ce qui me plaît en fait. J'ai ce privilège-là, entre guillemets, j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît, de pas me précipiter. Parce que
Ouais.
sinon j'aurais fait, c'est pas péjoratif, mais j'aurais fait un orchestre de variété, comme j'ai eu fait pendant un an. Mais j'aurais continué, juste pour avoir, on va dire, ce statut-là, mais finalement, moi, c'est pas spécialement mon objectif. Mon objectif, c'est de jouer avec des musiciens qui puissent me faire progresser, avec quelque chose, que ce soit de la composition, jouer avec un artiste qui a quelque chose, quoi. Donc je me dis,
D'accord.
je fais ça, peut-être que plus tard, je partirai vers une autre orientation dans ma carrière, on va dire, mais pour l'instant, j'ai pas assez de projets pour avoir ce statut-là. C'est comme
Non,
ça.
d'accord. Bah, c'est parfait. On reviendra sur ce sujet juste après, sur la gestion de ta carrière, toi, hein,
Ouais.
comment tu vois ça? J'aimerais qu'on finisse avec ça. Mais d'abord, j'aimerais parler du travail du groove. Le travail du groove, du coup, tu avais commencé déjà bien avant Franck, mais j'imagine que Franck t'a bien aidé aussi là-dedans.
Ouais.
Et d'abord, j'aimerais juste que tu. C'est assez. Comment dire? C'est assez abstrait de parler de groove. C'est un truc qu'on utilise énormément entre batteurs. Mais j'aimerais juste, sans faire une dissertation, sans rentrer dans la métaphysique ou quoi, juste que tu nous dises, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le groove?
Pour moi, le groove, ça serait une combinaison d'espace entre les coups. Une combinaison, on va dire, ouais, d'espace entre les coups. Et j'essaie de chercher la fin de ma définition, c'est pas évident.
Ouais.
C'est une combinaison d'espace entre les coups, de silence entre les coups. Le résultat, en fait, c'est le ressenti que tu as des gens, le ressenti que tu as en toi.
Ouais.
Si tu as des gens qui en face de toi qui ont la banane, qui ont le corps qui commence un petit peu à bouger, en fait. Tout ça, c'est le résultat, je trouve, de cette respiration, de cette vibe, en fait, de cette répétition aussi, puisque le groove, c'est aussi une répétition. Si je fais un truc qui sonne terrible pendant une mesure et que je change toutes les mesures, à un moment donné, le groove va être saccadé, il va perdre en lisibilité. Donc pour moi, le groove, c'est une répétition, l'espace qu'il y a entre les notes, la respiration, tout ça, c'est un résultat que les gens ont la banane, en fait, tout simplement.
Exact, ouais. Qu'ils ont la banane, qu'ils le
Ouais.
ressentent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a ce côté très plus dans l'émotion que dans les mathématiques, quoi.
Ouais, c'est
Plus
clair.
dans le groove, il y a des choses évidemment qu'on apprend dans les bouquins qui aident au groove, mais c'est quelque chose qui se ressent et c'est drôle comme tu disais, ouais, le corps ou la banane. Ça arrive de temps en temps que je vois des musiciens sur scène qui font des erreurs, mais où ils vont se regarder. et rigoler, tu sais, et dire ah merde, enfin je me suis planté quoi. Ouais bah ouais,
Ah,
bah
bien
t'es humain,
sûr.
c'est normal, et que ça casse pas du tout le groove, que c'est que des non-musiciens le remarquent probablement pas, des musiciens vont peut-être le voir et tout ça, mais ça casse pas du tout le groove. Au contraire, même ça peut rajouter quelque chose de voir que bah ils sont humains. C'est humain et ça bouge, et puis des fois ça tombe et ça revient,
Ah, bien sûr.
et ça marche quoi.
Bien sûr.
D'accord. Et du coup, ce qui fait quoi que ça groove, pour toi, ce serait cet espace entre les notes, ce silence entre les notes, cette gestion du silence entre les
Ah,
notes.
bien sûr. Un truc trop fourni, selon moi, ça peut devenir vite rébarbatif. Juste un groove simple. Des choses simples, en fait, sont souvent la base, je trouve, du groove, quoi. Moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de batteurs qui essayent de faire compliquer, juste pour faire compliquer, en fait. Juste pour se dire, ce
Ouais.
que je fais, c'est compliqué. Mais avant de savoir faire des trucs compliqués, essayez de faire des choses simples. Et souvent, juste une chose simple. Si on demande à Steve Jordan ou à Steve Gadd ou à Benny Grebb de faire un pouf-paf, juste vraiment hein, sur 2 et 4 et la grosse caisse sur 1 et 3 et le charlet en croche, ça va être un truc de fou quoi.
Ouais.
Ça va être un truc de fou, pourtant soit tout le monde peut le faire, mais c'est l'impact qu'il y a avec les coups, cette manière du bras de balancer en fait, l'impact qu'il y a entre les coups, la manière à la grosse caisse de revenir avec la batte, toute cette respiration, ce corps en fait va en résulter de d'un truc unique, en fait. Ce qu'on demande
Ouais.
à 25 batteurs de faire le même truc, on retrouvera 25 manières de l'aborder. C'est vachement beau. C'est ça qui est beau
Exactement.
dans la batterie. C'est ça qui est beau, quoi.
Ouais, carrément. Et Benny Greb, notamment, il y a combien de fois, en voyant ses vidéos, ça m'est arrivé de me dire, mais je sais le faire, ça. Ouais,
Ouais.
mais pas comme lui.
Ah, c'est ça.
C'est la partition, je sais la jouer. Ouais, il y a plein de choses qui fait qu'ils sont vraiment pas compliquées, où tu dis, mais c'est super facile. Ouais, mais non. C'est
C'est
pas tout à
clair,
fait.
ça c'est clair.
Ashson, pareil. Et Ashson, la première chose à laquelle je pense aussi, c'est son kit, qui est tout petit,
Ah,
avec des fois il y
minimaliste,
a
hein.
juste une ride Charleston. Il me semble que des fois il a même pas de crash, qui va plutôt crasher la ride. Et tu vois déjà, ça annonce tout de suite la couleur, quoi. Hein.
C'est
Il va pas
clair.
y avoir un milliard de notes dans tous les sens. Et lui, mais c'est en termes de groove, c'est un dieu, quoi. Hein. Alors ça, ces noms qu'on cite, pareil pour les auditeurs, je mettrai ça sur le blog, dans les références citées. Hein, Ashson, Benny Greb, si vous n'êtes pas encore familier avec Benny Greb, hein, je mettrai tout ça avec des liens sympas.
Ouais.
Voilà. Et alors, si tu pouvais garder un seul exercice pour travailler le groove, pour progresser dans ce domaine-là, dans le groove, ce serait quoi? Ce serait quel exercice?
Moi, ça serait ben à partir sur un truc simple de faire un 2 et 4 en fait sur la caisse claire, une grosse caisse sur 1 et 3, un charlet en croche ou un double croche, peu importe. Et de s'enregistrer. Donc on fait ça, on s'enregistre. On se pose la question suivante, on se dit est-ce que la grosse caisse est suffisamment forte ou elle est pas assez forte par rapport à la caisse claire? Une fois qu'on s'est posé cette question, on se demande est-ce que la caisse claire, est-ce qu'à l'endroit où je frappe, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas trop dégueulasse entre guillemets? Est-ce que vaudrait mieux pas que pour le groove, que je le frappe plutôt sur le cercle, sur le rebord? Poser toute cette question, s'enregistrer véritablement pour à la fin trouver son son en fait, son propre son. Parce que là, si je te donne un truc avec des gauches notes et tout, ça ne va pas forcément en résulter un truc qui va respirer, qui va groover, ça se trouve, ça va embêter tout le monde. Un truc tout simple, j'enregistre ça, si possible avec un matériel de qualité, et je me pose la question, la grosse caisse, est-ce qu'elle est bien sur le premier temps? Il faut pas qu'elle soit juste, là, tu vois, c'est vraiment la précision, quoi. Elle est sur le
Ouais.
premier temps, la grosse caisse, je prends cette initiative-là, j'ai mis la grosse caisse, tout le poids de mon mollet, de mon pied, sur le premier temps. Boum, quoi. Là, c'est pas négociable, elle est sur le premier et le troisième temps. Et toute cette confiance, parce que je pense qu'un groove fait avec une confiance sans hésitation, ça va forcément être un résultat plus. Les gens vont se dire plus waouh, quoi, tu vois. Et c'est pour ça
Ouais.
que Benny Greb, le gars, il fait juste un groove n'importe quel, mais dedans, il met tout. Il s'investit à 100%. Même le groupe le plus simple possible techniquement, il s'investit à 100%. Il y a la confiance, mais en même temps, il y a l'esprit qui est relâché. Je veux dire, il n'y a pas de raison d'être stressé. Mais il y a les membres qui sont quand même en tension. On y va, go, on y va. On a bossé tout ça, on a bossé le son et tout. Et après, ça en résulte quelque chose qui est unique, qui est vraiment le beau. Donc moi, ça serait l'exercice, ça serait de s'enregistrer, de faire le truc le plus simple possible, de s'enregistrer, et à un moment donné, peut-être, on va se dire, ah ouais, là, c'est pas mal, là, tu vois. Et à un moment donné, quand on se dit ça, c'est que c'est bon, on peut passer à l'étape supérieure. On va pas commencer à faire des gauches notes et tout, si le 2 et 4, il est pas en place, il est pas équilibré et tout, quoi. Parce que faire un 2 et 4, c'est
D'accord.
super compliqué, en soi. Je trouve ça, enfin, c'est super compliqué. Moi, on m'a appris pas mal à se dire, ah, ta grosse caisse, elle est pas assez forte, là, on n'entend pas, ou ta caisse claire, elle est trop devant, ou ton charlet est un peu moins fort, c'est un peu, tu le prends pas assez avec l'olive, c'est un peu irrégulier. Tous ces petits détails, en fait, qui font qu'à la fin, tu sais faire un rythme de base, je trouve, qui est propre, qui est net, qui est joli, quoi.
Ouais, qui fonctionne et sur lequel les autres musiciens vont pouvoir se reposer
Tout à
facilement,
fait, ouais. Tout à
en
fait.
faisant que ça marche tout de
Ouais.
suite. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi avec cette notion de tempo, voilà, le 1, il est là, et la grosse caisse, elle tombe ici, et elle tombe pas juste avant ou juste après. Elle peut, si c'est un choix, si c'est conscient, mais si on veut vraiment se faire, par exemple, un beau pumchak, tu disais un pouf-paf avant, c'est drôle,
Ouais, c'est ça,
j'avais pas entendu comme
pouf
ça. Ouais. Et du coup,
paf.
pour faire un beau pumchak, ouais, c'est bien, boum, dans le 1, dans le 3, et pas floc un tout petit peu après. Ou... Non, 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 on est
Ah
bien dedans et on y croit, quoi. Et il y a le poids de la jambe qui fait
alors, je t'ai
ressortir
dit,
ce son.
j'ai des fois des élèves qui, je leur dis, ils se ramènent donc avec des demandes spécifiques, je leur dis, vas-y, joue quelque chose. Et en général, ça rajoute des gauches notes, ça rajoute des doubles coups, on va dire, à la grosse caisse et tout. Et c'est pas super précis, en fait. Ça fait souvent de parasite dans le jeu. Donc j'essaie
Ouais.
vraiment de simplifier tout ça. Et je conseillerais à un batteur qui veut groover déjà de simplifier son jeu, quoi. Parce qu'on se rend compte, les batteurs comme Steve Gadd, Hanson, Steve Jordan, c'est à la base des batteurs qui savent jouer super simple, quoi. Pas
Ouais.
besoin de jouer compliqué, hein, pour faire du groove, quoi.
Ouais, en écoutant ce qu'ils font. Alors Benny Greb, des fois il y a des choses un peu voilà, un petit peu folles qui partent quoi, je dirais, mais Hanson ou Steve Jordan, enfin, on écoute les albums, je pense à notamment, j'écoutais dernièrement le John Mayer, le dernier John Mayer, donc avec Steve Jordan dessus, et il y a aucun gros break, il n'y a aucun truc qu'on
Non.
n'arriverait pas à écrire sur la feuille ou quoi, voilà. Mais ça sonne d'enfer, ça marche super bien, c'est bien en
Ah,
place,
c'est
et le
ça.
mec y croit, quoi, tu sais que le mec y croit,
Ouais, c'est ça.
il est dedans. Ouais. C'est pas
C'est
seulement il
clair.
sait le jouer, c'est aussi il y croit, je pense que c'est important ça.
C'est clair.
Ok, donc un exercice, ouais, ce serait de s'enregistrer. Prendre un micro, s'enregistrer, se réécouter et conscientiser la démarche en se demandant qu'est-ce qui marche pas au niveau des différents éléments, quoi. Et je dirais oui en commençant très simplement, grosse caisse, caisse claire, charlée. Et pas la peine de faire de break ou de.
Non, pas de break.
Ouais, pas pour l'instant. Et alors là, je suis en train d'enregistrer ma voix, je suis en train d'enregistrer avec le Zoom H2N, on en parlait juste avant. Moi, c'est le premier micro que j'ai acheté pour m'écouter d'abord les enregistrements de la batterie. Et pour commencer, c'est génial, hein. Il
Ah
est
ouais.
de mémoire, je crois qu'il est à 160 euros, quelque chose comme ça. Donc, si vous êtes déjà intéressé au prix des micros, vous savez que c'est un petit peu plus cher que ça d'habitude. Mais là, pour un premier micro, juste pour ça, pour s'enregistrer, pour enregistrer des répètes et voir ce qui va, ce qui ne va pas,
Ça
c'est
suffit,
déjà
hein? Ça
génial.
suffit
Ouais,
largement,
ça suffit, ça suffit.
ouais.
Et
Ouais.
d'ailleurs, dernièrement, j'ai mon cousin là qui s'est acheté l'iPhone 10 et qui m'a filmé avec l'iPhone 10, avec le micro de l'iPhone 10,
Ouais.
et j'hallucinais du son de l'iPhone 10.
Ah ouais.
Donc, il y a des smartphones avec lesquels ça peut très bien marcher. Le 10, c'est pas seulement j'imagine que c'est pas le seul voilà, à être bon là-dedans. Donc, peut-être même qu'avec le smartphone, ça le fait, hein, donc voilà, peut-être même qu'il n'y a rien besoin d'acheter.
D'accord.
Ok, très bien. Et alors, pour en venir à tes influences, on a déjà beaucoup cité Benny Greb. Et alors moi, ça me paraît évident. Pourquoi la raison pour laquelle je parle de lui, c'est que dans ta manière de faire sonner ton kit avec beaucoup de nuances, beaucoup de nuances et de ghost notes aussi, beaucoup la cymbale ride avec des montées et la cymbale ride qui va être crashée. Qui va être crashé vers la fin et avec un gros tom basse bien lourd, et puis la ride qui va être
Ouais.
jouée. Qu'est-ce que tu as de nouveau en ride? Je crois que tu as la Constantinople.
C'est ça, j'ai une Constantinople Renaissance.
Ouais,
Exactement.
donc elle doit être assez
Baveuse,
fine.
elle est baveuse.
Ouais, elle est baveuse.
Ouais, elle
Donc
est
ça.
beurrée. Elle est beurrée, on dit. Elle est bien
Ouais,
beurrée, quoi.
elle est bien beurrée.
Ouais, c'est-à-dire que c'est une cymbale J'aurais du mal, je pourrais pas m'en séparer. C'est une ride et une crash, quoi. Elle
Ouais.
manque.
Ouais, et du coup elle sonne super bien en crash quoi, hein. Ça fonctionne très très bien comme ça. Contrairement à des rides qui seraient plus rock, plus épaisses ou quoi, qui fonctionnent pas
Bien
forcément
sûr,
aussi
hein.
bien. Et les changements de débit rythmique aussi, d'avoir par exemple des triolets dans un groove qui est très binaire et d'un coup un petit clac clac clac, un truc qui va
Bien sûr,
retenir le
hein.
groove
Ça
comme
c'est
ça.
Franck Agulhan qui en a beaucoup
Ah
bossé
ouais,
ça,
c'est vrai?
les mélanges des débits en fait, hein. C'est-à-dire faire un débit
Ouais.
double croche, à un moment donné faire un débit un triolet. Et là je bosse beaucoup les quintolets, les septolets aussi, mais pour l'instant je les ai pas du tout incorporés dans mon jeu, j'y arrive pas, mais tout ça c'est pour essayer de pas trop faire quelque chose de plat en fait, quoi. Souvent il y a beaucoup de gens, de musiciens, de batteurs, ont souvent un débit de croche, de double croche, ensuite ça repasse à double croche, ensuite croche. Voilà, c'est d'essayer de trouver une vague en fait, pour que ça fasse quelque chose de pas trop monotone.
Ouais.
Voilà. Mais
Ouais, et
après,
ça peut
pour
être.
tu parlais des influences de Benny Greb, ça c'est, ouais, ça c'est quelque chose dont on me parle beaucoup en fait. Beaucoup de Il y a même mon groupe en fait, j'ai un groupe, les gars, à chaque fois qu'on joue, ils me parlent de lui, quoi. Je veux dire.
C'est vrai.
Il y a déjà maintenant, ils savent que j'adore ce type, ils savent, et ils en profitent, c'est-à-dire que même des fois je sors, je finis de jouer un truc, ils me disent, ouais, t'as fait du Benny Reb là. Alors que c'est pas le cas. Il y a des gens qui en profitent alors. Je pourrais dire que je suis fan de Steve Gadd, ils diraient à la fin, t'as fait du Steve Gadd. Donc, des fois c'est difficile de se sortir de
D'accord.
ça.
Ouais.
Mais effectivement, c'est un gars, alors, donc on va parler de lui, comme ça sera fait, mais il faut en parler de
Parlons de
lui.
Benny.
Ça fait depuis 2007, on va dire 2008, que je connais ce gars. Que je suis énormément ce gars, c'est-à-dire j'ai passé des périodes où je n'écoutais que lui véritablement, quoi. Et là on parle des influences, comment incorporer un petit peu les influences dans son jeu. J'ai passé des périodes où j'écoutais que lui, je passais des énormes, enfin beaucoup 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 de temps à regarder les vidéos. Tous les albums aussi, parce qu'il a fait des albums, il joue avec des artistes qui sont pas connus et tout, que personne ne connaît, et moi je suis allé les chercher tous, et c'était de l'overdose, quoi, réellement.
Ouais.
Mais j'ai fait ça avec lui, j'ai fait ça avec plein de batteurs, hein, mais j'ai fait ça avec lui, et j'ai rarement pris l'ordi à côté de ma batterie en me disant, bah, tiens, on va refaire ce plan, on va refaire ce plan. Je crois que j'ai jamais fait en fait. Parce que c'est pas ça qui m'intéresse, moi c'est pas réellement de savoir qu'est-ce qu'il fait la batterie, c'est tous ces plans en fait, je commence à les connaître et tout. Moi c'est vraiment de quelle manière en fait il vit sur l'instrument et tout. Comment il vit la batterie, comment il tient ses baguettes, comment il se tient, est-ce qu'il respire, est-ce qu'il respire pas, quel est le niveau de tension qu'il met dans ses coups, comment il joue la grosse caisse, tu vois, c'est comment il fait les choses plus que qu'est-ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait, je l'ai digéré. Je sais ce qu'il fait, je le connais très très bien. Honnêtement, je connais très très bien ce qu'il fait. Donc maintenant, c'est vraiment une autre étape, quoi. Et cette étape-là, je l'ai fait avec Steve Jordan, avec Kate Carlock. En ce moment, j'adore. Mais voilà, je prends un petit peu de l'avance par rapport à ton comment dire ça, à ton interview, mais. Pour les influences, puisqu'on parle beaucoup de Benny Graham, moi ce que je conseillerais, si on aime vraiment un type, ben on l'écoute, mais vraiment, quoi. On s'y met dedans, mais vraiment, moi quand j'étais en bagnole, c'était lui, il n'y avait personne, quoi. Maintenant c'est moins le cas parce qu'il faut passer aussi à autre chose, il faut se trouver soi-même, tu vois. Mais j'ai beaucoup, beaucoup écouté ce gars. Et il y a une chose qui m'a aidé un petit peu à sortir de ce gars, même s'il est vraiment à moi, c'est clair, mais à sortir de ce gars, c'est toutes les démos que j'ai faites, puisque je me suis retrouvé à faire deux démos avec ce gars. Enfin, avec ce gars, il était pas joué avec moi, mais à Wicked Drummer 2015 et à la Back Show, il était là en fait. Donc
Ouais.
on a pu parler, discuter, il se souvenait de moi et tout, c'était hyper. J'étais hyper touché de ça. Et du coup, quand tu joues là, tu ne peux pas te permettre de faire du Benny Grep, ce n'est pas possible, tu ne peux pas. Et les influences, c'est vachement dans la tête aussi. Hein. Si tu te dis, ok, ne fais pas ça, ben tu ne le fais pas. Et moi, à la back show, le solo que j'ai fait et tout, finalement, il y a assez peu de Benny Greb. Il y en a un peu dans l'approche et tout, mais il y en a assez peu. J'étais content qu'à la fin de la back show, personne ne me dise, tu as fait du Benny Greb. Et ça, c'était, on va dire, une victoire pour moi. je voulais pas entendre parler de lui à travers moi après, tu vois. Parce que c'est simple, parce que le gars, Laurent Bataille, qui a fait la présentation au micro à la back show, il a commencé à dire, ben, oh, c'est génial, on a un fan de Benny Greb qui va nous jouer, qui a joué en première partie, et je me suis dit, c'est fou, ça va me coller à la peau, mais bon, après, c'est comme ça, c'est aussi un avantage. Il y en a plein qui sont fans de Steve Gard, il y en a plein qui font que du Vinny Quagliota dans leur jeu, que du Devil Cut. Moi, c'est pas mal de Benny Greb, mais avec beaucoup d'autres choses aussi.
Et comment est-ce que t'as appréhendé ces démos alors, vu que tu t'es dit je veux m'en éloigner, et évidemment le vrai, le béni, il est là, donc je vais pas être un miroir. Comment est-ce que t'as appréhendé ça?
Alors déjà, il y a une part de mental, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu te dis t'es confronté, c'est ça que j'aime bien dans les démos, c'est que t'es confronté à toi-même en fait. Tu ne peux pas te reposer sur un guitariste, tu ne peux pas te reposer sur quelque chose d'autre en fait, donc t'es seul face aux gens qui sont là un petit peu pour te juger, que des batteurs. Oui, et si tu te recentres sur toi-même, dans ta tête, tu sors des trucs, on va dire, qui sont vraiment au fond de toi. Et ça a vraiment été une part de mental beaucoup dans ces démos. Après, les démos, moi, je suis pas arrivé à l'arrache, c'est-à-dire ça a été quand même préparé. Il y a 60% d'improvisation, 40% de préparation, je dirais. Et il était hors de question dans mes plans que je fasse je vais pas repartir sur un truc, tu vois, de Sango comme il fait lui, tu vois, avec les pieds je sais pas si tu vois ce dont je parle, avec les pieds tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum. Lui, ouais, il fait toujours ça. De toute façon, il fait toujours la même chose, hein, soit. Mais c'est toujours génial aussi. Et j'allais pas partir. Enfin, il y a des trucs, c'est interdit. C'est interdit de faire. Comme dans les jams, c'est interdit de faire Cantaloupe Island ou Chicken des fois, parce que tout le monde le fait, tu vois. Ouais. Et là, il y a des trucs, je te dis, tu vas pas le faire. Et de toute façon, t'es capable de faire autre chose que de faire une pâle copie, en fait.
Ouais.
Donc, il suffit de se recentrer sur soi-même. Et moi, de ce que je peux dire de Benny Greb, c'est qu'il m'a permis de réellement de me transcender, en fait. Et pas de s'enfermer dans un truc, tu vois. Il m'a vraiment permis de me transcender. C'est-à-dire que là, voilà, je sais que je vois comment il est. Et en plus, personnellement, je le connais un petit peu maintenant. Hein. Et tu te dis, ce gars, ok, c'est. Il y a le musicien, il y a le batteur, mais ce gars, il me fascine, quoi. C'est-à-dire que là, cette manière d'être cool, d'être complètement extérieur à l'événement, mais après d'intérioriser, c'est-à-dire être sûr de sa force et tout. Mais c'est un gars que moi je ressens super bien dans sa peau, en fait, vraiment épanoui, heureux. Et quand je vois ce gars, je me dis, mais putain, d'être cool comme ça, c'est génial, d'être sympa, de pas se prendre la tête, et après ça se ressent sur ton jeu, donc. Essaye d'être cool dans la vie, d'être un bon gars, et après sur ton jeu ça va mieux, quoi, tu vois. Franchement, c'est Benny Greb, tu sais, n'importe quel sujet, je pourrais t'en parler 2 heures de ce gars, te dire tu vois. Mais ce travail là je le fais avec Steve Jordan, hein, avec Kay Carlock, là je regarde son DVD, là je me remets, je regarde ça, je me dis, c'est quoi sa manière de se positionner par rapport à l'instrument, là. Qu'est-ce qu'il utilise comme batterie, machin, pourquoi il joue comme ça, tu vois. Il pose la question, pourquoi. Et c'est ça, tu vois, il y a des choses qui me posent la question. Mais Benny Greb, en soi, je suis plus du tout surpris de ce qu'il fait. Il fait toujours la même chose.
Il fait toujours la même chose. Tu l'as vraiment intégré. Tu l'as vraiment intégré, et j'aime beaucoup le mot que tu as utilisé avant de transcendance, de dire que ça, il t'a transcendé. J'imagine dans le sens où tu as intégré ce que tu as digéré. Ce qu'il a pu t'apporter et qu'il pourra certainement continuer à t'apporter par la suite, et tu as mis ta touche, tu l'as accouché de ce machin là, quoi. T'es pas resté bloqué dedans pour être un miroir,
voilà. Ouais. Mais non. Après, je te cache pas, des fois, selon les contextes, c'est compliqué. Des fois, quand tu te retrouves à un solo de batterie dans un tempo, parce que Benny Greb, tu regardes, il joue toujours quasiment au même tempo, ses morceaux, on est toujours sur un tempo similaire. Alors des fois, ça m'arrive de devoir faire un solo sur un tempo similaire, un truc hyper binaire. J'ai tellement écouté ce gars, c'est difficile des fois de sortir de ça. Mais il faut se forcer, il faut se forcer. Et s'il y en a un qui te dit ah, c'est du béni, ben, un fou, moi. Je veux dire, c'est comme ça. Moi, je lui ai passé les baguettes, et je suis sûr que lui, il va nous faire du Wickel ou du Tony Roster, tu vois. C'est comme ça, mais je suis en train de petit à petit de transcender ça. De...
D'accord, très bien. Et alors, du coup, tu écoutes énormément ces albums, que ce soit Keith Carlock ou Benny Greb ou Steve Jordan, et après, tu vas pas chercher à mettre sur papier les plans que tu écoutes et tout ça. C'est plus une observation, donc plus dans la vidéo aussi.
J'ai dû le faire une ou deux fois, franchement, pas plus.
D'accord.
Et en fait, moi, j'écoute beaucoup et je prends les émotions, je capte au fond de moi, tu vois ce que je veux dire. Après, je suis une éponge, moi, un petit peu, tu vois. Quand il y a un gars en face de moi, même même s'il joue pas super, je vais quand même assez vite retenir ce qui s'est passé, quoi, quand il a joué, tu vois.
Ouais.
Et je suis allé voir un concert avec un batteur de jazz qui s'appelle Brian Blade. J'ai pas aimé le concert, voilà, ça m'a pas touché, mais
ouais.
J'ai retenu ce qu'il fallait retenir, quoi, cette espèce de fougue et tout, cette émotion qui est ressortie. Quoi. Parce que la musique, c'est l'émotion, finalement, on s'en fout des doubles croches, on s'en fout des machins, on s'en fout si ça va vite, quoi. Ouais, donc je sais plus où est-ce qu'on a été exactement, mais...
Oui, je me demandais comment est-ce que tu faisais pour intégrer ces influences, quoi. Hein, comment est-ce que tu faisais pour que ça nourrisse ton jeu, pour construire ta personnalité. Et apparemment, ça passe vraiment dans une écoute profonde,
ouais.
Plus que dans qu'un décryptage, quoi. Plus que
ah ouais,
dans,
c'est ça. Mettre... Moi, ouais. Quand je dis une écoute profonde, c'est-à-dire que moi, j'ai écouté à un moment donné de ma vie, j'ai écouté que ça, quoi, quasiment que ça. 90%, ouais. J'écoutais que ça. Et quand t'écoutes que Steve Jordan, pardon, Benny Greb, Keith Carlock, si t'écoutes 3-4 types tout le temps, à la fin t'as quand même statistiquement plus de chances de comprendre le groove, puisque oui. C'est que des tueurs, les gars. Donc t'as quand même plus de chances, quoi. Et là, c'est un truc, tu vois, c'est un truc important. Moi, je suis pas quelqu'un qui a écouté et qui écoute énormément de musiques différentes. Par contre, ce que j'écoute, je l'écoute de manière intensive pour que ce soit vraiment ancré en moi, tu vois. Vraiment au fond de moi, tu vois. Tu vois, j'écoute des musiques différentes en soi, mais pas en quantité énorme, quoi. Je connais des amis musiciens qui écoutent 3-4 albums par semaine et tout. Je suis pas sûr que ça soit ultra efficace pour le cerveau, pour sa musicalité, d'écouter tout un tas de trucs dans tous les sens, quoi. Ouais. Moi, j'ai écouté des trucs, je fais 10 albums par an, ce qui est pas beaucoup, 10 albums, et après, je les écoute vraiment beaucoup, quoi. C'est-à-dire jusqu'à l'overdose, quoi. C'est-à-dire, le morceau est terminé, boum, alors, mais quoi. Et ça va durer, et à la fin, le morceau, tu le connais par cœur. Et ce qui s'est passé, tu le réécoutes et tu recaptes des énergies différentes. À chaque fois, tu as une nouvelle écoute sur le morceau.
Ouais.
Donc, je fais beaucoup de ça. Mais dans beaucoup de musique, hein, dans beaucoup de musique, mais après, c'est pareil avec d'autres artistes comme Eric Lenini, qui est un pianiste qui joue d'ailleurs avec Frank Agulon, Herbie Hancock, Maceo Parker, Electro Deluxe, tout ça, ça a été des trucs que j'ai beaucoup écouté de manière extrêmement intensive. Quoi. Et là, je repars sur une autre vague de CD, si ça me plaît pas, je lâche de suite. Quoi. Je te suis si ça me plaît, je garde, quoi. Je suis capable de garder un CD de 2 ans, quoi. À vraiment
d'accord.
Écouter, quoi, tu vois.
Ouais. Ouais. Ok, parfait. Et pour les... je me demandais juste, par rapport au... Donc, pour les CD, c'est clair. Et pour les DVD, est-ce qu'il y a des DVD, que ce soit des lives ou des DVD pédagogiques que tu regardes aussi, je sais pas si Steve Jordan, Keith Carlock, tu m'as dit qu'il en avait fait.
Ouais,
je sais pas,
je suis
si
en train de regarder,
Jordan...
ouais. Steve Jordan, j'ai pas connaissance. Keith Carlock, je suis en train de regarder pour la deuxième fois, je me replonge dessus, j'avais regardé il y a quelques années, je me remets. C'est super, même si c'est quand même. C'est un jeu, si tu veux, qui est moins visible, qui est moins facilement. Moins facilement lisible que celui de Benny Greb. Tu sais, Benny Greb, c'est quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, soit ce qui fait des fois, tu te dis c'est facile, tu vois, on peut le refaire. Il y a des batteurs comme Keith Carlock, je trouve qu'on commence à avoir un niveau de complexité, mais pas trop élevé pour pouvoir quand même le regarder et prendre beaucoup de plaisir. Moi, j'aime pas trop les batteurs qui font énormément de, on va dire, un charlet élastique. J'appelle ça comme ça, un charlet élastique, c'est-à-dire qu'avec des contretemps partout. Avec elle, on perd le 1, je sais même plus où est-ce qu'il est le 1 des fois quand je regarde. Et cette complexité, des fois, me dérange un peu. J'aime bien les batteurs avec un jeu assez lisible, finalement, quoi. Donc
Facile
les
à
ouais c'est
capter.
ça. Donc par rapport aux DVD, moi les DVD qui m'ont marqué quand j'étais tout petit, c'était les Modern Drum, enfin les, ouais c'est Modern Drummer, le festival là, en 2003, Modern Drummer, les DVD qui mettaient dans Batteur Magazine en fait. Donc après les DVD qui m'ont marqué dans la batterie, moi j'étais depuis l'âge de 13 ans, j'achetais Batterie Magazine et Batteur Magazine. Donc à chaque fois, il y avait un DVD, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, il faut aller sur le site internet, regarder les vidéos. Et il y avait des DVD. Donc c'est là que j'ai découvert Frank Agulhan, c'est là que j'ai découvert plein de batteurs. Je ne savais pas qui c'était, John Blackwell, même les batteurs français. C'est vraiment ça qui m'a aidé, quoi. C'est-à-dire vraiment être curieux, quoi.
Ouais,
Il
ça.
y a un batteur, y a un batteur il a... Il y a des fois rien que sur son kit ou même sa manière, même sa tête, quoi. Tu te dis, oh, je vais pas écouter ce gars, quoi. Mais non, mais moi je me dis, allez, il faut y aller. On va écouter, ça se trouve c'est du trash metal, ça se trouve c'est pas ton truc, mais moi j'écoutais Mike Mangini. J'ai passé une période, j'écoutais ce gars un petit peu, hein, j'étais Thomas Lang et tout. Pourtant, mon jeu, il est à des millénaires, il
Ouais.
n'a aucun rapport, quoi. Mais j'écoutais et je suis forcé, quoi. André Ceccarelli, à un moment donné, tout le monde m'en parlait, j'en avais un petit peu marre. Je me suis dit, oh, bon, allez, on va écouter quand même. Faut bien faire comme tout le monde. Faut bien faire comme tout le monde. Et j'écoutais. Et je suis pas toujours fan, je suis pas fan, mais il y a des trucs que j'ai pris dans son jeu inconsciemment. Et c'est pareil pour plein de groupes de musique, là, on parle de batteurs, mais de groupes, hein, les Snarky Puppy, je m'y suis mis aussi, Wolfpack, qui est ultra la mode en ce moment, je m'y mets aussi. Faut vraiment se forcer, même hein, s'il y a une influence ou quelque chose qui peut paraître un peu pénible, là, tu te forces, t'y vas et tout. Moi, les batteurs de jazz, des fois, qui ont un jeu un peu pénible, je trouve, mais je vais quand même écouter, je vois comment ça joue, quoi. Même dans les jams sur Toulouse, et aux alentours, des fois ça me plaît pas. Je sais que ça va pas me plaire en fait. Je sais que ça va pas forcément me toucher. Mais j'y vais
Ouais.
quand même. J'y vais quand même parce que je regarde le batteur, je dis ok. Quoi, je me pose la question comment il a fait pour en arriver là à jouer du swing comme ça et tout. Et je ressors, je suis interloqué en fait. Et je suis déstabilisé et après, je me remets au travail, quoi. Je vais bosser la batterie, quoi. Donc
Donc
vraiment
t'as
pour.
vraiment une démarche très consciente, autant chez toi à la maison en écoutant des CD que les concerts, que les voilà. T'as vraiment une démarche consciente de continuellement te demander qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que ce batteur ou cette musique tout court peut t'apporter dans ton jeu.
Voilà, mais comme je te dis, je suis pas le genre de gars à écouter 40 albums dans le mois, tout comme ça. Je cible quand même ce qui me plaît en termes d'albums et en écoute intensive, je cible ce qui me plaît. Et après, sur Facebook, sur YouTube, là, je regarde beaucoup beaucoup de choses, on va dire de la lecture rapide et tout. J'écoute beaucoup beaucoup de choses. Tous les batteurs de ma région, par exemple. Des batteurs un peu connus, ma région, je les ai tous écoutés, hein, si tu veux, sur Facebook, même s'ils sont pas très connus et tout, peu importe, moi je vais les écouter sur Facebook, j'écoute, la Edjam, je regarde ça, après ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est bien d'avoir une vision un peu globale, quoi.
Ouais. Ça fait de toute façon grandir. Et je pense qu'effectivement, c'est fondamental d'avoir cette ouverture d'esprit. On ne se doit pas, absolument pas, surtout pas, de tout aimer. C'est pas possible. Il faut rester authentique avec soi-même. Mais je pense que c'est très important de continuer à écouter énormément de choses. Autant au milieu, j'entends par là des choses très populaires, que ce soit du Michael Jackson ou du Bruno Mars ou des voilà. Que des machins extrêmes en termes de free jazz qu'on va pas comprendre, voilà, que d'extrêmes en termes de métal où ça va frapper très fort très vite et ça va gueuler et on va pas comprendre pourquoi il gueule ou quoi. Et je pense que tout ça c'est fondamental et que dans chaque style Il y a quelque chose à prendre. Et d'ailleurs, c'est drôle, tu le sais sûrement, il y a ma newsletter. Pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, tous les lundis, je fais les 3 points du lundi. Et là, je vous fais une avant-première, mais qui du coup ne le sera pas puisque l'interview ne sera pas encore publiée. C'est ce lundi, ce que j'ai mis du Jane, donc quelque chose qui est très pop, la chanson Comme de Jane, parce qu'elle me donne la patate, que c'est quelque chose qui me rend juste de trop bonne humeur. Et j'ai mis Jane, j'ai mis, mince, le deuxième, je me rappelle plus, et le troisième, c'est l'album King de Flesh God Apocalypse. Et Flesh God Apocalypse, alors moi je suis un gros fan, et c'est du death metal symphonique, avec toujours des
D'accord.
symphonies derrière, et qui ont notamment un bassiste qui a un chant clair plutôt haut, et aussi une chanteuse d'opéra maintenant, avec pas sur tous les titres, mais souvent. Et je trouve que, et c'est pas les seuls à faire ça, hein, ce mélange, mais eux, ils le font, je trouve, avec une justesse qui est magnifique. Et en regardant l'email donc, que j'ai programmé, qui sera envoyé lundi, j'ai dit, waouh, ils vont recevoir du Jane, un truc qui est vachement pas, voilà.
D'accord.
Et puis après, ils vont recevoir un machin qui est ultra violent, et j'ai envie que les, justement, de transmettre ce message. De transmettre ce message de, vous allez peut-être pas aimer, c'est pas grave, on vous demande pas d'aimer. Mais ouvrez-vous l'esprit. Regardez ce qui se
Ouais, bien
passe
sûr,
et
tout à
voyez
fait.
ce que ça peut créer dans votre jeu, quoi.
Tout
Comment
à
ça peut
fait,
ressortir.
bien sûr.
Ok, et alors du coup, j'aimerais en venir à la construction de ta carrière. Et pour commencer, on a parlé de la bac show, de ton intervention à la bac show. Et j'aimerais savoir comment est-ce que tu as fait pour te retrouver là-bas? Comment t'as fait pour te retrouver sur la scène de la bac show?
J'ai fait un concours en fait. Je me suis donné un ultime défi. Un ultime défi, pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de concours en fait de batterie. Pourtant, il n'y en a pas énormément en France, mais j'en ai fait beaucoup. J'en ai gagné beaucoup en fait. Donc je me suis dit, je vais faire une dernière fois. Je mets le paquet quoi. Enfin, je mets le paquet, je vais essayer de me faire plaisir à faire un solo qui me corresponde pour le coup. Et du coup, le gagnant a remporté une caisse claire et a remporté la possibilité de jouer en première partie. Donc voilà, c'était on va dire, pour boucler la boucle de tous les concours que j'avais gagnés, parce que j'ai fait Tama, le concours Tama, j'ai gagné, qui m'a permis de faire des démos ensuite. Ensuite, j'ai gagné le concours Wicked Runner, qui m'a permis de faire une démo ensuite, à Wicked Runner. Tout ça, le final de tout ça, c'était la Bac Show, qui est quand même un festival, très très gros festival, il y a beaucoup beaucoup de monde, j'ai joué devant beaucoup de monde, j'étais très honoré de ça, et puis voilà, donc j'ai joué en première partie, ça s'est super bien passé.
Donc c'était sur Facebook, il y avait un concours sur Facebook, t'as publié une vidéo et...
Voilà, il fallait envoyer un solo de 2 minutes. Et les solos, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi. Moi, je trouve ça génial, solo batterie, je trouve ça. Et ça a été Dave Wickel au début, les solos batterie, quand j'étais jeune, je regardais pas mal ça. Et après, c'était Benny Greb qui m'a vraiment pris conscience des solos, de la manière de les aborder, d'essayer de les réfléchir un peu, c'est pas que du feeling, parce que souvent un solo qui est que dans le feeling, on sait pas trop où est-ce que ça va. Donc, moi j'ai fait un solo et j'adore ça, et ensuite j'en ai refait un à la Bac Show, que tu as pu voir d'ailleurs, je pense, je te l'ai envoyé.
Ouais.
Et puis voilà, je me suis retrouvé là-bas, c'est génial. Ça a bien
Ok.
plu, quoi.
Ouais. Et ça se voit que je suis pas étonné que tu en aies gagné autant là des concours. Il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de toi. En étant externe et en te voyant sur Internet finalement, hein, parce que j'étais pas là à la bac show moi. Mais en voyant ce qui se passe et tout ça, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et du coup, c'est quoi ton rêve en tant que batteur, ton objectif ultime?
Alors, moi, mon rêve, tu m'aurais posé la question il y a quelques temps, ça aurait été de jouer dans une grande salle, de faire une démo. Mais en fait, ça, c'est fait. Et tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, je t'aurais dit de discuter avec Benny Greb. Ça, c'est fait. Donc,
Check, ok, next.
maintenant, clairement, en fait, mon objectif, c'est de jouer avec des musiciens qui me fassent progresser. J'aimerais bien connaître ce que c'est une tournée, jouer avec quelqu'un. Qui a une petite réputation, enfin, qu'on connaît ce que c'est une grande salle et tout, tu vois. Véritablement, c'est la musique, quoi. C'est pas juste, même si c'est important pour la com, c'est pas juste se montrer sur Facebook en train de faire des plans, quoi.
Ouais.
Je suis pas persuadé que ça apporte beaucoup de taf, non plus. Moi, ce qu'il me faut, c'est continuer à faire des démonstrations. Vraiment continuer parce que ça plaît, en fait, et je me sens bien, je me sens à l'aise à faire ça. Je me sens pas stressé, tétanisé par l'événement, quoi que ce soit. À la Bac Chaud, je me sentais bien, quoi. Tout simplement bien à jouer, à faire mon truc. Depuis
T'es
tout
dans ton
petit,
élément.
de toute façon, moi, je suis dans ma cave, dans ma chambre, et je joue, quoi. Des fois, je fais voler les cahiers et je joue. Donc, je suis habitué à jouer tout seul. Je suis habitué. J'aime beaucoup le groupe, mais je suis habitué à jouer tout seul. Donc, cet aspect démo, il faut continuer. Mais après, l'objectif prioritaire pour moi, c'est d'essayer de continuer à démarcher des musiciens et tout pour se faire appeler dans des trucs de très bon niveau, quoi.
Ouais, donc faire une tournée avec un artiste qui est ou un
Bien
groupe qui est
sûr.
un
Ah, c'est
minimum
ça.
de renommée et pouvoir faire des belles salles, quoi. Ce serait
C'est
ça
ça.
pour en ce
Voilà.
moment l'objectif ultime?
C'est ça. C'est number one, c'est ça. Number
Bah
two, c'est
écoute, je.
continuer les démos. Et en fait, et là, j'ai une annonce à faire. Je sais pas si ça va permettre pour moi de continuer les démos, mais suite à la Bac Chaud, en fait, il y a Zijan qui m'a proposé de sponsoriser, mais j'ai accepté. Donc je suis maintenant sponsorisé par Zijan, ce qui est génial pour moi. Tu m'aurais dit ça
Génial, félicitations, ouais.
il y a 2 ans de ça. Enfin, je veux dire, je n'aurais pas cru à ça. Il y a également Sonore aussi qui m'a contacté pour être sponsorisé. Donc j'ai décidé d'accepter également. Mais voilà, je suis content de te le dire à toi pour la première fois, parce que tu es la première personne qui sait ça. Et Zijan et
Génial.
Sonore m'ont fait, et moi je leur ai expliqué que pour moi le but c'était pas d'avoir du matos, parce que le matos je l'ai chez moi, ni de me la péter sur Facebook en disant je suis sponsorisé Zijan. Il faudra le faire, il faudra l'annoncer, mais c'est dans un but précis. Et moi le but précis c'est avec ces marques d'essayer de continuer à faire des démos, de se faire voir dans des stages, de continuer à faire parler de soi et de transmettre le côté pédagogique et faire des cliniques. Ça, c'est vraiment un truc qui
Ouais.
me plaît, quoi.
Donc
J'espère, du fond
c'est.
du cœur, ça va me permettre de continuer à faire un peu ça, quoi.
Ouais, donc une collaboration plus sur l'événementiel, quoi, hein, sur ta qu'ils te tendent des perches par rapport à ça, quoi, hein,
Ah, bien sûr.
pouvoir t'exposer. Ouais, bah c'est génial, hein, félicitations pour ça.
C'est
Sonore
ça.
et Zildjian, c'est. Ouais, c'est bien. C'est pas mal du tout. Et du coup, qu'est-ce que maintenant tes sponsors, il y a, à mon avis, si on refait une interview dans quelques années, je pense que tu me diras, bah, si tu m'avais, pour ton rêve, je pense que tu me diras, bah, si tu m'avais demandé il y a quelques temps, ça aurait été de rencontrer Benny Grève, ça c'est fait, ok. D'être sponsor, voilà, maintenant ça c'est fait. De faire une tournée avec un gros artiste, et là tu me diras que tu as été avec je sais pas qui, et ce sera certainement fait.
Je
C'est
sais
tout ce que je
pas,
te souhaite,
ouais,
mais.
je l'espère du fond du cœur. C'est compliqué moi de ce que je vois. J'en parlais en fait à Laurent Bataille, et c'est un gars que j'aime beaucoup, et c'est vrai que je lui disais, mais c'est compliqué parce que c'est souvent les mêmes en fait qui jouent en France et tout, dans les gros geeks et tout. On laisse rarement la place aux nouveaux, aux petits jeunes et tout. Et moi je lui disais, finalement c'est aussi le cas à Toulouse, hein. C'est aussi le cas dans les villes moins grandes que Paris et tout. C'est souvent les mêmes en fait qu'on voit. Je me rends compte que cet aspect démo et tout, c'est cool parce que les gens me connaissent plus. Et pour l'instant, ça m'aide pas encore à jouer à avoir des possibilités d'être dans la shortlist, on va dire,
Ouais.
pour des trucs de haut niveau. Donc c'est tout ça, c'est à consolider et tout. Et après, il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que j'ai un groupe qui s'appelle Macafunk, qui est un groupe toulousain avec un chanteur qui s'appelle Romain Mackenzie, qui a été révélé entre guillemets dans The Voice en 2016, donc qui était assez connu en 2016. En 2016, maintenant il est un petit peu moins, mais toujours assez réputé sur Toulouse et un midi Pyrénées. Donc j'ai ce projet-là qui est véritablement mon groupe, auquel j'ai recruté les musiciens et tout. J'espère avec ça avoir continuer à faire parler de moi et tout, continuer à faire parler du groupe. Mais mon objectif, il est clairement encore plus haut. Il est de jouer avec des musiciens de très bon niveau. Et je vais pas m'avancer sur certaines choses, mais j'ai une petite idée dans ma tête pour annoncer que je joue avec Zijan, c'est de faire une vidéo avec un bassiste. Et je vais pas dire son nom parce que ça n'a aucune c'est pas validé encore, mais il est probable que je fasse une vidéo avec un bassiste très connu en France pour annoncer que je joue avec cette marque, quoi, tout simplement.
Ouais, d'accord. Et concernant le fait de faire des tournées, qu'est-ce qui t'a répondu alors Laurent Bataille quand tu lui as dit, quand tu lui as partagé que c'était vraiment un challenge, qu'est-ce qu'il a répondu?
Bah, en fait, à la base, on avait parlé de ça parce que Laurent Bataille avait laissé un article sur Batteur Magazine. Il fait un article qui s'appelle Les points de vue, le point de vue d'un deuxième page de Batteur Magazine. Et il marquait de ça, en fait. Et je me souviens, c'est il y a 3-4 ans qu'il avait marqué ça. Je lisais ça avec ma mère. Je lui ai montré, mais j'étais un peu blasé. Personne ne me faisait confiance et tout. Et avec ma mère, on lisait ça, on se disait, mais même dans les hautes instances, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes. Et donc, on a parlé de ça avec Laurent Bataille, si tu veux. Et lui, il a affirmé finalement ce qu'il avait écrit, que effectivement, c'est souvent les mêmes. C'est comme ça. Des fois, je me pose la question, je me dis, mais pour jouer avec ce gars et pour jouer avec ce groupe, comment il faut faire? Et des fois, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. À moins d'être pote avec un gars qui ensuite est pote avec un autre. Après, il y en a qui me disent, ouais, mais il faut que tu viennes à Paris. Ouais, ok, il faut que je vienne à Paris, mais moi, si j'ai un geek, je prends le train et je viens à Paris, il n'y a pas de problème. Après, m'installer à Paris, pour l'instant, pour moi, c'est pas le cas encore. Pas. Mais des fois, effectivement, des fois, t'as des gens, tu sais pas comment transpercer la machine. Dire, allô, je suis là, quoi. Et des fois, les démos de batterie, les machines ne suffisent pas, mais ça fait pas de mal non plus. Donc,
Oui, forcément.
il faut continuer. Il faut pas lâcher, moi je lâcherai pas, je suis quelqu'un qui envoie beaucoup de mails et tout, des gens et tout, en disant allô, je suis là, quoi. Et d'ailleurs, à Wicked Drummer 2015, ce qu'il faut savoir, j'ai en parlé avec Gérald Massoubre, qui est le fondateur de Wicked Drummer, et quand j'avais gagné en 2015, c'est pas lui qui m'avait dit viens jouer à notre festival, en fait, c'est moi qui l'avais proposé au culot, j'avais dit mais comme tu m'as fait gagner, pourquoi tu ne me ferais pas jouer, quoi. Et c'est de là il s'est dit, ah ben ouais, on va te faire jouer. Et c'est de là qu'en fait, après, est partie l'idée de Wicked Drummer de continuer à faire ça. Et la Back Show a repris l'idée de faire jouer de leurs gagnants de leur concours, en fait. Et finalement,
Excellent.
avec du culot, ça se trouve, ces festivals auraient continué à exister, mais sans jamais donner la chance à du jeune batteur de jouer en première partie. J'ai vraiment posé la question par mail et il a dit, ouais, on n'y a pas pensé. On va te programmer et je tremblais devant mon ordinateur quand j'ai vu ensuite qu'il y avait Benny Greb en gros sur le truc.
Ah merde.
Et ouais, j'étais quand même. Je pense que c'est inimaginable ce que j'en sentais au fond de moi, c'est en 2015, donc j'étais moins avancé, on va dire, que maintenant, tu vois.
Ouais.
Et c'était énorme, quoi. Il a dit oui, il a dit oui, après j'ai vu sur l'annonce, je dis c'est pas possible, quoi.
Ouais, mais tu vois, d'ailleurs, c'est pareil. Dernièrement, je me suis refait un petit fichier dans lequel je marque les noms des batteurs que j'aimerais interviewer. Et pour toi, pareil, c'est toi qui étais venu vers moi.
Bien
Et
sûr.
cette fin d'année était très chargée pour moi. Là, le fichier, je l'ai fait que récemment. Et j'étais super content que tu viennes vers moi parce que oui, ça m'intéressait, mais je me suis pas pris le temps de te contacter et tout ça. Et puis, c'est pas toujours facile d'entrer en contact avec les personnes. Il y en a beaucoup qui répondent pas ou qui disent oui et puis après ça marche pas, on trouve
Bien
pas de
sûr.
voilà, il y a la vie hein, on a tous une vie mais toi là t'es venu vers moi et ça bah ça m'a vraiment plu et puis voilà c'est comme ça qu'on avance et au culot il y a apparemment t'as lancé quelque chose peut-être que la back show ne le ferait pas non plus maintenant cette initiation pouvoir montrer un jeune batteur qui en tout cas n'est pas encore connu du grand public forcément c'est génial comme
Ouais, c'est
initiative.
ça. C'est ça. Non, mais moi, je t'avais contacté parce que j'avais vu les articles et tout. J'avais vu que des fois, il y avait des interviews que tu faisais et tout avec Franck, avec d'autres batteurs. Je me suis dit, pourquoi pas te contacter. Des fois, il faut véritablement prendre les devants, hein, je pense, dans certaines circonstances. D'ailleurs, je m'écarte un peu du sujet, mais il y avait quand même un article qui m'avait beaucoup plu sur ton blog avec Monsieur Camus, je crois que ça s'appelait.
Ouais, Franck
Ouais,
Camus, ouais.
voilà, moi ça m'est beaucoup plus hein, parce que j'ai eu pas mal de problèmes de pas se tenir droit, d'être hyper tendu, toutes ces questions un petit peu physiques sur l'instrument, ça m'a beaucoup beaucoup plu. L'interview de Franck avec Boulogne, je l'ai écouté et tout, il y a pas mal de trucs que j'ai écouté sur ton blog finalement. Tu vois, comme je t'ai dit,
Super.
on en revient à être curieux, à écouter.
Cette interview, je l'envoie très souvent à des lecteurs qui m'écrivent, qui m'envoient des mails et qui me disent j'ai tel problème de posture ou quoi. C'est probablement en fait l'interview que j'envoie le plus, que je partage le plus à des lecteurs qui me posent des questions. Donc pareil, je la remettrai dans les liens, hein, dans les références citées, celle de Franck Camus. Super important pour être bien posé sur son kit, quel que soit le style qu'on joue, c'est fondamental, c'est absolument
Ouais,
fondamental.
c'est super, hein. Ouais.
Ok, très bien. Et alors pour finir, tu joues sur une Sonor, tu joues sur quoi comme kit également?
Je joue sur une Sonor SQ2, ça s'appelle. La série
Ouais.
SQ2, ce sont des séries sur mesure, en fait, qu'on fait sur Internet via le configurateur. On choisit le bois, on choisit la dimension, on choisit l'épaisseur du bois, on choisit la finition intérieure, extérieure, on choisit tout un tas de trucs.
Ouais.
Certainement le site le plus complet pour personnaliser, la marque la plus complète, on va dire, pour personnaliser sa batterie de ses rêves. Et donc, moi, j'ai fait ça. J'ai la chance d'avoir deux sonores SQ2, deux batteries sur mesure chez moi, une petite pour des petits endroits, une petite rouge pailletée en érable, et une autre pour les plus gros endroits qu'on a pu voir à la Back Show, une batterie zébrée
Ouais.
en être.
Elle est belle, hein.
Et
Elle est belle et elle claque, hein. Elle sonne bien, oui.
voilà.
Carrément. Et pour les cymbales, donc tu es chez Zildjian, en ride, tu as cette Constantinople qui est une tuerie. D'ailleurs, je crois que la première fois qu'on s'est écrit, je t'écrivais par rapport à ça. Je sais plus, j'avais vu une vidéo où j'arrivais pas à voir ce que c'était la ride.
Bah,
Et
ça de,
je crois que
oui, c'était
c'est...
la vidéo Zijana, hein. On m'a beaucoup, beaucoup posé de questions par rapport à cette vidéo. Quelle était la casquette que j'utilisais? Quelle était la cymbale? Et c'était la cymbale Zijana Renaissance, ouais. Et
En combien de
c'est
pouces? Quelle taille?
un 20 pouces.
En 20, ouais.
Voilà, une cymbale quand même assez jazz.
Ouais.
Mais on peut l'envoyer, quoi. On peut vraiment. Voilà, ce que je remarque sur mon kick, c'est que de plus en plus, il me manque quand même une cymbale pour finir mes phrases qui serait à droite du ton basse.
Ouais.
Il me la manque. Donc, du fait de la sponsorisation avec Zijian, les choses vont, on va dire, mon parc de cymbales va être légèrement modifié. Mais il y aura toujours cette cymbale que je vais absolument garder. Elle sera certainement peut-être pour finir mes phrases à droite de mon ton basse. Je mettrai une autre ride, mais c'est une cymbale exceptionnelle, je trouve.
Ouais, elle est vraiment top, effectivement. Et en Charleston, qu'est-ce que t'as?
Alors, Charleston, en fait, pour l'instant, je n'ai pas de Charlie Zijan, en fait. Là, j'utilise un Charleston Minol, mais Byzance, en fait.
Ouais.
Mais je n'ai pas de. Voilà, ça a toujours été comme ça. Donc, à l'heure où je te parle, maintenant je suis sponsorisé Zijian et je vais très certainement choisir un Charley Constantinople ou Kerop. Voilà, ça va être
D'accord.
un des deux très certainement. En fait, je vais à la baguetterie à Paris pour redire bonjour à toute l'équipe de la baguetterie pour choisir mes cymbales, en fait. Je vais prendre le temps de choisir mes cymbales puisque là-bas ils ont un stock de cymbales important. Je vais choisir mes cymbales, ce sera exactement le 4 janvier 2018.
Très bien.
Et je vais prendre le temps de choisir qu'est-ce que je veux exactement, même si je sais exactement ce que je veux. Moi, j'ai très souvent acheté du matériel sans essayer, en fait, directement sur Internet. Parce que des fois à Toulouse, ou des fois en Aveyron, là où il y a mes parents, on n'a pas de stock, les magasins n'ont pas le stock. Ils n'ont pas le stock, donc moi je faisais à travers les tests que je voyais écrits sur Batteur Magazine, les tests de Laurent Bataille, encore une fois, et je lui ai dit des fois j'achetais du matos qui valait cher sans essayer, juste en me faisant confiance sur les tests. Ah, il était tétanisé, il disait, mais mon Dieu,
Mais t'es
c'est.
fou.
Ouais, mais bon, voilà, quand t'as pas chaud, bon.
Ouais.
Donc j'ai fait comme ça, et cette ride de Constantinople Renaissance, je n'ai jamais essayé avant de l'acheter.
Oula, bah t'es bien tombé, hein.
Ouais.
C'est bon, là on est sur une valeur sûre, ouais, clairement, ouais.
C'est ça. Et la batterie non plus, d'ailleurs, je n'ai jamais essayé, puisqu'en soi, c'est une batterie sur mesure. Donc, ils te la
Ouais.
donnent pour toi. Tu ne peux pas avoir la possibilité d'essayer
Bah
quoi que ce
oui.
soit. Donc.
Oui, c'est d'ailleurs, moi je serais assez. Je pense que je mettrais un an à choisir mon kit si je devais le customiser en termes de taille, de choix de bois et tout ça.
Ah, mais j'ai mis un
Ouais.
an, hein. J'ai mis super de temps. Voilà. J'ai mis beaucoup de temps à aider. Des batteries à la fin, je les mettais dans le panier, et je sais pas combien de fois j'ai cliqué sur modifier le panier.
Ouais.
Et à la fin, quand j'ai fait ma batterie, je me souviens, j'avais mis un tome qui n'était pas à la bonne dimension. Je m'étais emmêlé les pinceaux. Heureusement que le gars du magasin m'a dit ça, parce que ce genre de truc, il faut être vigilant. Si tu commandes un badge sonore qui est doré, c'est-à-dire qui est chromé or, le
Ouais.
badge sonore, si tu le commandes sur tous les tomes, et que dans ton configuration, tu oublies, on va dire, dans le tome basse, de mettre la même chose. C'est voilà, vu le prix de l'engin, il vaut mieux pas quand même se tromper quoi. Faut être quand même extrêmement extrêmement vigilant quand on fait ce genre de truc quoi.
Et du coup, je peux te demander, ça coûte combien une batterie custom comme ça?
Une batterie 3 kits, déjà, j'allais te plaire la grosse caisse, une grosse caisse de 20 pouces par exemple, c'est minimum 1500 euros quoi, rien que la grosse caisse.
Ouais.
Et donc après, si on rajoute un tome basse, un tome aigu, une caisse claire, un tome médium, là on en est minimum à 4000, 4500 euros minimum.
Ouais, donc t'as pris la caisse claire avec, hein? T'avais pas une autre caisse claire?
Moi j'ai pris la caisse claire avec, hein.
Ouais.
Mais j'ai une autre batterie en érable, une petite Jazette que j'utilise aussi, que j'ai customisée. C'était la première que j'ai faite, que j'adore aussi. Elle est un petit peu moins chère puisque les fûts sont moins profonds et tout. Le revêtement est moins haut de gamme, on va dire, mais il est très haut de gamme quand même. Et j'utilise cette batterie et c'est dingue comme. J'ai deux batteries en fait qui sonnent vraiment différemment et c'est dingue comme mon jeu est ultra influencé par rapport aux deux batteries.
Ouais, par rapport à celle sur laquelle tu vas jouer.
Voilà, c'est ça. Hein. Là, ce soir, j'ai une démo là. J'hésite en fait à prendre une autre batterie et je sais que ça va changer pas mal ma manière d'être en fait derrière l'instrument, d'avoir deux kits qui sont quand même bien différents et tout.
Ouais.
Et des fois, ça m'embarrasse, alors qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être dans ma place, avoir deux kits qui sont des batteries magnifiques, quoi. Vraiment.
Ah bah oui, ouais, carrément. J'ai jamais essayé la SQ2, enfin une custom comme ça, mais
Assez difficile d'essayer, puisqu'en général, les magasins, bon. Mais
ouais, ils n'en
ça
ont pas,
arrive des
mais
fois, ça arrive. C'est des batteries super, quoi. Vraiment
ouais.
super, quoi.
Ok, super, super, super. Écoute, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais encore partager?
Ce que je pourrais te dire, c'est un dernier truc qui serait important pour moi, c'est que moi ce que j'aime, c'est les personnes, en fait, des batteurs qui sont avant toute chose, qui sont des musiciens, en fait, avant d'être des batteurs.
Ouais.
Et peu importe leur niveau en batterie, il y a des gens, objectivement, je joue mieux qu'eux, entre guillemets, mais il y en a qui m'impressionnent, en fait, parce qu'ils ressentent la musique au fond d'eux. Réellement au fond d'eux et qui sont vraiment des musiciens avec toute cette sensibilité-là et tout. Et moi, c'est vraiment la chose que j'aimerais dire, c'est vraiment essayer d'être musicien, c'est-à-dire essayer d'être une bonne personne et de ressentir la musique au fond de soi, tu vois ce que je veux dire, au fond de soi
Ouais.
et jouer juste la batterie, juste taper en soi, ça n'a pas d'intérêt. Essayer de taper, de faire ressentir des émotions, d'y mettre son cœur dedans, c'est mieux, quoi. Donc c'est vraiment ça. Souvent j'entends le mot monstrueux, ouais il est monstrueux ce batteur, ouais il est monstrueux, mais j'aime pas ce mot en fait, moi je m'en fous qu'il soit monstrueux, je veux juste que ce qu'il fasse, ça soit beau en fait. Moi je préfère un batteur qui fasse des choses simples, soit pas monstrueuse, mais c'est beau quoi, c'est juste beau.
Ouais.
Et donc j'en ai marre d'entendre partout, ouais c'est monstrueux, moi je m'en fous, monstrueux, hein. Moi je veux que ça soit humain justement, je veux pas que ça soit un monstre, tu vois. Que ça soit humain, je veux que ça soit beau, quoi, et toute cette sensibilité de musicien. Donc vraiment, être musicien avant d'être un batteur, je trouve ça. Franck Agulhan, il est comme ça. Benny Grebb, c'est un gars, il est comme ça. Steve Gadd, il est musicien. Gars. Laurent Bataille, c'est pas le même niveau que je viens de citer avant, mais Laurent Bataille, c'est un musicien, quoi. Le gars, il est passionné de ça, il ressent la musique, tu le sens, quoi, c'est direct.
Avant, tu parlais de transcendance et je me disais, moi, quand j'ai commencé la batterie, je cherchais des batteurs monstrueux. Premier auquel je pense, c'est par exemple Thomas Lang, que j'avais vu à une clinique où j'étais mais sur le cul, vraiment, voilà, par la vitesse et ce qui t'impressionne quand t'as 13 ans et que tu commences à peu près à la batterie, et voilà. Et c'était ça que je cherchais, et plus j'évolue en tant que batteur, et moins je recherche ça. et plus je vais rechercher d'autres subtilités. Et peut-être qu'il y a une espèce de transcendance, tu vois, quelque chose à passer, parce que je pense que tout batteur, quand il est petit, a besoin, se dit, il faut que j'ai 15 cymbales, il faut que j'ai 20 tomes, et que je sache jouer à 600 BPM, voilà, et après je serai un bon batteur. Et alors que, évidemment, non, mais il y a une espèce de transcendance, il y a peut-être, ou peut-être que c'est parce qu'on a commencé jeune, et que c'est juste de l'immaturité, même de l'immaturité pas musicale, de l'immaturité en tant qu'humain. Et que c'est en étant jeune que qu'on voit ça comme ça, où je me demande ça, si un batteur, quelqu'un qui va commencer à 40 ans, voit aussi ça comme ça, je sais pas. Mais oui, il y a peut-être une transcendance à avoir, quelque chose, pour d'abord passer le côté monstre et ensuite revenir vers l'humain, revenir à la
Ouais, c'est
base.
ça. Hein. Parce que les monstres, t'auras toujours un gars qui sera meilleur, qui ira plus vite.
Bah oui.
Le gospel drumming, ça m'a beaucoup impressionné, mais maintenant, ça m'impressionne plus, que t'auras toujours un gars qui ira plus vite, qui sera plus impressionnant, qui sera.
Ouais,
Mais voilà.
exactement.
Pour moi, de toute façon, ça a toujours été la ligne principale, ça a toujours été la musique, en fait, tout simplement.
Super, au top. Gabriel Delmas,
Ben,
merci
merci à
beaucoup.
toi. Merci à
Alors,
toi.
pour te suivre, du coup, ce sera, t'es très actif sur Facebook. C'est le meilleur endroit pour te suivre, ou tu préfères que les gens aillent.
Ah, c'est Facebook. Après, il y a Instagram aussi. Je suis en train de m'y mettre, sérieusement.
Ouais.
Delmas Gabriel sur Instagram.
Ok, et
Gabriel
sur.
Delmas, c'était pas disponible. C'est Delmas Gabriel.
D'accord, très
Et
bien.
ensuite, il y a la chaîne YouTube qui devrait être alimentée de manière assez régulière, puisqu'en fait, toutes les vidéos de la baguette, de la bague show, je les ai toutes récupérées, j'ai fait un montage sur chacune, que tu as eu la possibilité de voir, toi,
C'est vrai. Tu me diras
un VIP.
justement. Ouais, tu me diras qu'est-ce que je peux publier, qu'est-ce que tu aimerais que je mette, puisqu'il y a des vidéos que tu voulais pas que je publie ou quoi. Donc on verra ensemble, hein, qu'est-ce que tu
Ça
aimerais que je
marche.
partage. Et puis voilà, merci beaucoup pour ton
Ok,
temps.
merci à toi.
Yes, et je publierai cette interview début janvier, la première semaine de janvier. Donc bonne année à tous. Et puis voilà, je te dis à très bientôt, Gabriel.
Salut, bye bye.
Salut!